There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
On les a vu lever les bras, une médaille autour du cou sur un podium olympique. Pour beaucoup de sportifs, c'est l'accomplissement d'une vie. Mais derrière, on n'imagine pas forcément comment ils ont vécu leur jeu. De la cérémonie d'ouverture au village en passant par leurs exploits, on a envie d'en savoir un peu plus sur ces sportifs. Je suis Adrien Yo et aujourd'hui dans Olympic Legends, je reçois trois légendes, trois biathlètes, Sandrine Bailly, Florence Bavrel et Martin Fourcade. Salut à tous les trois.
Salut.
On parle de médailles olympiques, vous en avez décroché 11 en tout, si j'ai bien compté. La première question que j'ai, c'est, elles sont où vos médailles, Florence?
Allez, moi je commence. Alors moi, elles sont dans un coffre, en fait, c'est pas que j'ai peur, que j'ai pas envie de les exposer ou quoi que ce soit, c'est qu'il y a eu pas mal de vols dans mon village, une série de vols, donc j'ai préféré quand même les mettre au chaud et les garder avec moi quand même.
Et tu sais que Flo, en fait, une médaille d'or, ça vaut pas si cher. J'ai regardé, là, je me suis
renseignée. Mais quelqu'un, je me suis dit, s'il voit quelque chose en or, on ne sait jamais. Moi, je n'ai pas pris de risque. Hein.
En fait, tu sais, sur 500 grammes, je crois qu'il y a 6 grammes d'or seulement. En fait, je crois qu'elle vaut 500 euros. Bon, c'est pas mal, hein, mais il ne va pas récupérer grand-chose, le voleur. Tu peux les mettre en avant.
tu les ressors quand même de temps en temps pour les montrer, pour les...
Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'il y en a qui viennent et qui demandent à les voir. Donc, bon, c'est pas souvent, pas régulièrement, mais ça arrive quand même.
Alors moi, pour rebondir sur ce que dit Florence, elles sont affichées toute l'année, mais pas à la maison. Elles sont chez mon équipementier Rossignol en 2010, quand je gagne ma première médaille olympique. J'ai demandé à Rossignol de l'accueillir dans une vitrine à leur siège. Et du coup, j'ai rempli après année cette vitrine. C'était un peu la tradition de fin de saison. Ça me permettait déjà d'avoir un peu de place à la maison parce que ça prend un peu de place, l'histoire. Et surtout, ça me permettait en fait assez symboliquement de passer à autre chose. L'objectif de la saison était rempli. Il était matérialisé par cet objet que je mettais derrière moi, que je plaçais dans cette vitrine et que je ne reverrais pas jusqu'à l'année suivante. Donc, c'était aussi s'auto-satisfaire de ce que je gagnais, mais regarder vers la suite. Et donc, ces belles médailles olympiques, parce que c'est des beaux objets, elles sont pas à la maison.
Tu n'as pas envie de les toucher parfois quand même? De les reprendre un petit peu et de te dire, tiens, c'est vrai que c'était pas mal, c'est beau.
Moi, je ne suis pas trop matérialiste. Par exemple, j'ai gardé vraiment aucune coupe de quand j'étais plus jeune. Les seuls objets que j'ai gardés, c'est les médailles mondiales, les globes de cristal et les médailles olympiques. Et je ne suis pas du tout attaché aux médailles mondiales. Par contre, je trouve qu'une médaille olympique, c'est quand même un très bel objet. Et donc, oui, ça me fait plaisir quand, à chaque fois que je vais chez eux de pouvoir la toucher et de pouvoir la prendre en main. Ouais, c'est quelque chose d'agréable, un beau souvenir.
Et Sandrine ?
Moi, je suis un mélange des deux, en fait. Un peu un mélange de Martin et de Flo, dans le sens où, au début, quand j'ai arrêté ma carrière, je les ai un peu exposés parce que j'avais ouvert un magasin. Donc, c'est vrai que ça faisait partie un peu de la communication, on va dire, hein, aussi un moyen de partager ça, et les gens, ils étaient contents de les voir aussi. Et puis ensuite, j'ai fermé le magasin, et donc là, je les ai mis au chaud à la maison, pas forcément en avant, mais dans un couloir, dans un beau meuble. Et quand même, de temps en temps, je les ressors, comme là, je bosse avec des enfants périscolaires, donc je trouve que c'est bien aussi de leur montrer, parce que ça a du sens. Et du coup, je les ressors de temps en temps, mais elles sont pas forcément au milieu de la pièce.
Pas sur la cheminée.
Non, elles ne sont pas sur la cheminée, ouais. Il n'y a pas de place.
Non, mais c'est intéressant de savoir un petit peu, de voir, parce que c'est vrai que les gens s'imaginent toujours qu'est-ce qu'ils font de leurs médailles, quoi. Est-ce que les médailles sont sous leur lit, alors, sous leur oreiller, parce que c'est vrai que la plupart des sportifs qu'on interroge, quand ils viennent d'avoir leur médaille, ils dorment avec. C'est sous l'oreiller, c'est génial. Mais après, c'est vrai que bon, on ne peut pas la garder en permanence autour du cou. Il faut s'en séparer, il faut la remiser. Mais voilà, c'est toujours intéressant. Pour commencer ce podcast, on va parler de votre expérience olympique, si vous le voulez bien. Vous en avez eu des expériences parce que à vous trois, vous couvrez 20 ans de Jeux olympiques de Nagano 98 à Pyeongchang 2018. Donc 98, 2002 et 2006 pour Florence, 2002, 2006 et 2010 pour Sandrine et 2010, 2014, 2018 pour Martin. Quel souvenir vous vient à l'esprit quand vous pensez au jeu? Une ambiance, une course, un podium? Qu'est-ce que vous avez en tête?
Allez-y. Vas-y, Flo, c'est toi la première.
La plus vieille, ouais, c'est ça. Non, mais c'est qu'à chaque JO, c'est vraiment différent. Hein. On n'arrive pas dans le même état d'esprit, on n'en est pas au même moment dans sa carrière. Donc, c'est vrai qu'à chaque JO, ça a été particulier, il y a des choses différentes qui ont été vécues. Mais ouais, si je reprends un peu chaque jeu, moi, Nagano, c'était plus la découverte où j'avais pas assez d'ambition, clairement. J'y suis allée en me disant, allez, je suis la petite jeune là, qui arrive pour la première fois. Je voulais essayer de profiter, mais j'en ai pas assez profité non plus. J'ai même pas fait la cérémonie d'ouverture. Je voulais tellement bien faire les choses. Je me dis, allez, il faut être pro, faut tout faire à fond, tout mettre les chances de mon côté. Et j'y étais pas du tout, j'étais pas dans l'esprit olympique. En plus, on était complètement décalé du village, on était loin, on était dans la montagne, on était, en gros, on était comme en Coupe du Monde. Donc, j'ai pas vécu cet esprit olympique à Nagano. En plus, avec des conditions météo super merdiques, et on n'arrivait pas à trouver de bon fartage, donc ça n'a pas été des bons résultats. Donc, Nagano, c'était plutôt à oublier.
Ensuite, on reste sur les premiers jeux comme ça de chacun, c'est quelque chose qui a été difficile à appréhender, ça, ces premiers jeux, savoir comment se positionner. Est-ce que c'est la découverte? Est-ce qu'on est concentré tout de suite? Sandrine, comment tu as vécu, toi, tes premiers jeux?
Je pense que c'est un peu comme Flo. Les premiers jeux, c'est la jeunesse. On est sélectionné, mais à la fois, on n'a encore pas fait de. Pour ma part, en tout cas, j'avais encore pas fait de gros résultats, même si j'étais capable de monter sur un podium, mais j'étais pas non plus attendue. Et à la fois, c'est presque le moment où c'est le plus facile de faire une médaille parce qu'on n'a pas cette attente extérieure. Et il y a beaucoup d'athlètes qui arrivent sur leurs premiers jeux et qui arrivent déjà à faire des médailles. Je pense à Marie Dorin, Marie-Laure Brunet pour ce groupe féminin. Et je pense qu'il ne faut vraiment pas se mettre de barrière. Et les premiers, pour moi, ce sont les plus beaux quand même parce que l'insouciance, parce que la découverte, parce qu'on s'attend à quelque chose. Mais finalement, la cérémonie, moi, elle m'avait bluffée. Enfin, le fait que la flamme s'allume, c'est là, l'univers olympique, il prend vraiment de l'ampleur et il devient réel. Et ça reste pour moi, Salt Lake, mes plus beaux jeux, même si c'était loin, même s'il n'y avait personne sur la piste, même si je n'ai pas fait de médaille, ça reste quand même mes plus beaux.
Martin, toi, oui. C'était à Vancouver, moi, tes premiers?
Ouais, moi, du coup, c'était à Vancouver. Il y avait Sandrine dans l'équipe.
Ouais.
Et moi, c'est des jeux en trois temps, une découverte et un stage d'abord de préparation qui nous met dans l'esprit olympique sur l'île de Mont-Washington, qui avait été vraiment un stage, en tout cas, pour moi, c'est un des plus beaux stages de ma vie où on était dans un groupe qui marchait super bien. Il y avait quelque chose qui se créait et un cadre assez féerique. Avec l'arrivée au village, magnifique. Voilà, tout se passe bien jusqu'à la première course, sprint. Des conditions météo complexes, quelques tensions qui apparaissent en interne. Et donc, du coup, ce premier sprint qui, pour moi, est un moment marquant dans ma carrière, qui est un moment compliqué. Et après, j'ai réussi à me libérer sur la fin des Jeux avec une belle place. Je fais 13e sur l'individuel. Et ça me permet de me remettre dans le match et d'aller chercher cette médaille d'argent sur la Mastart. Donc voilà, c'est le jeu en trois temps, un émerveillement de découvrir l'esprit olympique et l'univers olympique, une partie un peu plus complexe et enfin un bonheur sur cette Mastart. Et comme le disait Sandrine, j'ai eu la chance d'arriver à saisir cette opportunité sur mes premiers jeux. Et ouais, c'est un souvenir pour la vie. Ouais.
Et puis toi, Martin, du coup, tu en as quand même fait derrière où tu étais super attendu. Par rapport à cette attente qui portait, parce que tu étais le seul à porter autant d'attentes au niveau du biathlon à cette époque-là, comment tu as vécu? Parce que les premiers, tu étais un peu dans l'insouciance malgré tout, même si du coup Vincent G fait une première médaille, donc ça a aussi donné envie d'en faire une, et puis ça s'est concrétisé. Mais du coup, tu vivais comment ça?
Bah ouais, les premiers, moi, c'est mon premier podium en Coupe du Monde, c'est aux Jeux. Donc, c'est sûr que c'est une expérience particulière. Et ensuite, sur les deux autres, je suis attendu. Je suis numéro un mondial en amont des Jeux à Sochi et à Pyeongchang. C'est une attente qui est à la fois compliquée à gérer, parce qu'il y a beaucoup d'attentes, mais c'est quelque chose qui n'est pas arrivé soudainement. Je suis numéro un mondial à partir de 2012. Donc voilà, il y a 2 ans dans la peau de l'ultra favori qui m'aide et qui finalement… sont pas, pour moi, n'ont pas été si différentes que, alors, exacerbées, mais un peu dans la lignée de, en tout cas, de la pression que je m'étais mis à moi et de l'état d'esprit dans lequel j'arrivais. Ensuite, c'est sûr que Sochi, un sprint un peu compliqué, je fais sixième de mémoire avec un peu bridé. Et c'est sûr que s'il n'y avait pas eu la poursuite où j'étais arrivé à me libérer totalement, je pense que la fin des Jeux n'aurait pas du tout ressemblé à ce qu'elle a ressemblé parce que, voilà, comme tu dis, il y a beaucoup d'attentes et quand ça commence à bien se passer, c'est chouette. Mais dès qu'on rentre dans une spirale négative, c'est dur d'en sortir aussi. Je l'ai vécu à d'autres moments. Mais voilà.
Est-ce que tu penses, moi, une petite question, Martin, est-ce que tu penses que si tu n'avais pas eu ta première médaille sur tes premiers JO à Vancouver, ça aurait été plus difficile sur les suivants, parce que ça a pu enlever de la pression aussi?
Ouais, moi, je pense que ça aurait été plus difficile parce que ça m'a vraiment préparé à tout ça. Je pense que les premiers Jeux, comme vous avez dit, on y va aussi souvent à un stade dans notre carrière pour apprendre. Et moi, ça, en fait, j'ai appris de la découverte du milieu olympique jusqu'à l'apprentissage de la médaille olympique. Donc, c'est sûr que je pense que ça m'a beaucoup aidé. Et surtout, en fait, ça m'a aidé pour la suite. Parce que moi, cette médaille olympique, elle libère plein de choses. Et c'est rigolo, parce que je pense que c'est un peu pareil pour vous. Mais moi, je rêvais d'être champion de ski depuis que j'étais tout gamin. Mais finalement, le jour où je me rends compte que je veux être champion olympique, bah, c'est le jour où je deviens médaillé d'argent olympique à Vancouver, parce que c'est vraiment ce jour-là où je me suis dit, mais je comprends. Jusque-là, c'était un fantasme, mais quelque chose d'un peu abstrait. Je ne savais pas ce que c'était d'être champion olympique. En devenant médaillé d'argent, je me dis, je ne veux, c'est mon unique rêve dans la vie maintenant, c'est de devenir champion olympique, ce qui n'était pas le cas jusque-là.
Ouais, ça fait ça souvent. C'est vrai que ces jeux, c'est vraiment particulier. Et toi, tu as réussi à... En fait, on a chacun des parcours différents dans ces Olympiades. Toi, Flo, tu as été championne olympique et finalement, tu as su réélever ton niveau et tu as été super performante à ce moment-là et après dans ta carrière. Et puis, moi, j'ai fait l'inverse. J'étais attendue. Et puis, à l'inverse de Martin, je n'ai pas vraiment su gérer cette attente après avoir gagné le classement général de la Coupe du Monde. J'ai pas du tout géré l'attente des Jeux et pour moi, ça a été un moment à Turin difficile. Ça reste des moments où on rate, en fait, où ce sont des échecs. Même s'il y a eu la médaille en collectif, heureusement. Mais en tout cas, en individuel, les Jeux, ça peut être des moments très difficiles aussi. En tout cas, moi, je l'ai mal vécu. J'ai pleuré souvent au jeu.
Même avant pression, tout, hein. C'est une pression trop importante. C'est toi qui te mettais une pression, c'est l'entourage. Comment ça se matérialise?
En fait, c'est sûr que on a l'habitude de vouloir bien faire et d'être attendu. En tout cas, j'avais l'habitude, mais à ce moment-là, j'avais l'impression que l'objectif, c'était plus le mien, ça devenait celui des autres. C'était un peu bizarre et du coup qu'à ce moment-là, évidemment, il y avait beaucoup plus de médias. Alors maintenant, le biathlon a pris quand même beaucoup de notoriété, donc il y a quand même beaucoup de médias au quotidien. C'est un peu différent, mais à ce moment-là, il y avait beaucoup. C'était vraiment la médaille. J'ai l'impression que je me définissais que on allait me reconnaître que si j'avais une médaille, on allait oublier ce que j'avais fait avant. Et ça, en fait, moi, ça m'énervait, ce côté olympique où, en fait, à un moment donné, ça compte. Mais en fait, non, ce que tu as fait avant ou ce que tu feras après, ben, on s'en fout parce que finalement, si tu n'as pas de médaille, tu es un peu nul, entre guillemets. Et puis, c'est vrai qu'on le ressent parce qu'on s'intéresse qu'aux médaillés après. Et nous, on est complètement exclus, et ça, c'est un peu dur à vivre, mais à la fois, ça remet les pieds sur terre, c'est pas plus mal, c'est une bonne leçon de vie. Et en fait, à ce moment, il y a que 3 personnes qui montent sur le podium, et on est 100 au départ, donc ça fait beaucoup de déchets, quoi.
Ouais, et puis pour rebondir sur ce que dit Sandrine, on fait un sport où le meilleur mondial, celui qui écrase la discipline, bah, il gagne 30% des courses dans l'année. Bon, ça veut dire que 7 fois sur 10, il n'est pas sur le podium, et au jeu, il y a 4 courses. Donc finalement, pas faire de médaille au jeu, même quand tu es ultra favori, bah, ça arrive vite, ça arrive très vite. Ouais, c'est sûr qu'il y a une attention qui est particulière, ça reste un événement qui est particulier, donc les occasions sont peu nombreuses. Moi, j'ai une petite question pour Flo. T'es la première championne olympique du biathlon français en individuel, Flo?
Ouais, oui.
Ça s'est joué à quelques heures avec Vincent, mais c'est toi.
Ouais, c'est ça. Mais après, je reviens un peu sur ce que disait Sansan, parce que c'est vrai que c'est sur ces JO, c'est celle qui était attendue. Donc moi, quand je suis arrivée, j'étais un peu mal quand même, parce que je sentais bien que l'attente était sur Sandrine. Je sais que c'est elle, c'était pas par rapport à moi et tout ça, mais c'est vrai que dans une équipe, c'est pas toujours facile à vivre hein, quand voilà, on n'est pas forcément attendu. Finalement, c'est nous que voilà, ça peut être compliqué. Mais heureusement, il y a eu ce relais quand même avec une médaille de bronze qui a vraiment fait du bien quand même à toute l'équipe. Mais pour dire que ouais, c'est pas si évident que ça. Et encore pour revenir sur l'attente qu'on peut avoir sur les JO, moi je me servais à chaque fois de ces événements-là pour. Je savais que j'étais pas attendue, mais je savais qu'il y avait plein de favoris qui passaient à la trappe justement à cause de cette pression qu'on leur mettait ou qui se mettaient eux-mêmes. À chaque fois, je me disais, ben, allez, là, il y a des choses à faire, c'est des courses d'un jour, donc pourquoi pas. Même j'avais déjà fait des podiums et tout, mais je n'avais pas le niveau de Sandrine ou Martin. Donc, c'est vrai que moi, je me servais de ça pour me dire, ben, de toute façon, j'ai rien à perdre. Et ben, pourquoi pas. Et puis ça a marché.
Cette médaille d'or en sprint, du coup, en 2006 au JO de Turin, tu dis c'est tu n'avais pas cette pression, c'est vraiment ce qui a joué énormément, ce qui t'a permis de te relâcher complètement et de te dire, bon, de toute façon, si je ne fais pas de médaille, c'est normal, si j'en fais une,
Bon,
ce
après,
sera.
voilà, je savais que c'était mes derniers jeux aussi. Ce qui m'avait beaucoup aidé, c'était, enfin, où j'ai eu un déclic, c'était quand même à Salt Lake sur le sprint, où j'étais cinquième à seulement
Cinquième.
7 secondes du podium. Et là, il y a vraiment eu un déclic où je me suis dit, là, quand même, il y a quelque chose à faire, je suis passé pas loin. Et encore une fois, allez, je m'étais mieux préparé psychologiquement, j'y croyais un peu plus, mais encore une fois, je manquais un peu d'ambition ou de. Voilà, j'ai. Voilà, je suis pas allée jusqu'au bout quand même. Et là, vraiment, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et à Turin, ce qui m'a aussi servi, c'est que j'avais vraiment raté complètement mon individuel, qui était a priori une course un peu plus pour moi, où j'étais bien en tir. Et j'étais tellement remontée, tellement énervée, que j'étais complètement focalisée sur ma course, à faire les choses. Et on le répète tout le temps, hein, si on pense aux résultats avant de faire les choses, ça marche pas. Et ça m'a énormément servi dans ce sprint où, jusqu'à avoir passé la ligne d'arrivée, je ne savais pas du tout ce qui s'était passé. J'étais vraiment dans mon truc à fond, quoi. Donc ça aussi, ça m'a servi.
C'est vrai qu'on a la chance d'avoir quand même 5 courses. Hein. Ça, c'est du luxe, un grand luxe, parce qu'on se rate un jour et puis on a encore 4 chances ou même 5 maintenant avec le relais mixte. Donc,
Ouais, nouvelle course au JO.
ouais, on a quand même cette chance en biathlon de ne pas tout jouer sur 20 secondes, enfin sur 1 minute comme en slalom ou des choses comme ça, ou énormément de disciplines. Donc, c'est vrai qu'il faut arriver à rebondir comme l'a fait Flo et puis savoir jouer. Et ceux qui arrivent à jouer pendant ces jeux, ils s'éclatent, quoi. Mais faut savoir le faire.
On entend les différents goûts des médailles. J'aime bien qu'on parle de ça en fonction des moments où vous avez gagné ou comment vous êtes dans votre tête, etc. Je sens par exemple, Florence, que dans ton, peut-être presque, le goût de cette médaille de bronze partagée en relais a été peut-être plus savouré que l'or où tu t'y attendais peut-être pas. Est-ce que je me trompe?
C'est vrai que ben, du coup, après cette médaille d'or sur le sprint où chantait la déception de Sandrine, où voilà,
Oh merde,
certains.
désolée. Non,
Non, mais c'est pas du tout.
désolée de partager. Hein.
Ça s'est passé comme ça, et même par rapport au staff, pour certains, où j'ai compris voilà, que c'était pas moi qui devais être là. Mais donc là, c'est dur forcément de. Eh ben voilà, d'exposer, d'être content. Et bon, après, c'est pas ma personnalité non plus d'en faire des caisses. Voilà, je suis plutôt introvertie.
Mais
Mais c'est
c'est
vrai
marrant.
qu'avec ce relais, moi, ça m'a fait un bien fou de pouvoir partager ça. Et puis pour l'équipe, pour le staff et tout ça. Puis on était une bonne bande de copines quand même, hein, entre guillemets. D'ailleurs, on se voit toujours encore. Donc, non, là, moi, cette médaille
Les
de bronze
vieilles.
en relais, ça m'a vraiment fait du bien.
Mais c'est marrant ce qu'elle dit parce qu'elle dit, je sentais que le staff trouvait que j'étais pas à ma place, mais moi je sentais la même chose. En fait, c'est là qu'en fait, parfois au jeu, il y a des manques de communication parce que moi, mon ressenti, c'était qu'en fait, toi, tu avais fait la médaille et que finalement, bah, moi, j'existais plus et du coup, je m'étais mis en retrait en essayant de pas te montrer que j'étais déçue, mais à la fois j'étais contente pour toi parce que tu le méritais. Et en fait, voilà, les jeux, c'est tout ça, c'est exacerbé. Il y a beaucoup d'attentes aussi au niveau des coachs et parfois des manques de communication en interne qui font que ça peut être dur à vivre. Mais en tout cas, tu avais eu les bons mots, Flo, avant le relais, puisque c'est toi qui nous avais mobilisés. Et moi, en tout cas, ça reste presque mon. C'est ce que je disais un coup dans une vidéo Eurosport, c'est que ce que je retiens des jeux, c'est ce qui se passe avant. Et le fait de se créer du lien dans un groupe, ça c'est chouette, en tout cas, avant les jeux et avant les courses, puisqu'on fait des sports individuels, mais finalement, on est tout le temps ensemble. Donc, c'est important d'avoir des gens qui créent du lien.
Est-ce qu'il y a, juste pour rebondir sur ce que se disent Flo et Sandrine, c'est assez drôle parce que moi, j'ai vécu aussi cette expérience avec mon grand frère à Vancouver. C'est dur, comme le disait Florence, d'extérioriser quand tu sais, ne serait-ce que par pudeur pour ton coéquipier, pour Florence ou pour mon frère, pour moi, tu sais qu'il y avait beaucoup d'attentes et que ce n'est pas du tout de la jalousie, mais c'est qu'il y a une telle déception individuelle de l'autre côté, donc pour Sandrine ou pour Simon, que finalement, c'est du respect, c'est de la pudeur. Moi, je sais que la médaille partagée avec Jean-Guillaume Béatrix, c'est ce qui pouvait m'arriver de mieux parce que le staff était dans une euphorie totale, parce que moi, c'était l'aboutissement d'un projet de vie. Et c'est vrai que j'ai 100 fois plus savouré cette médaille d'or olympique que la médaille d'argent à Vancouver, pas pour la couleur de la médaille, simplement parce qu'il y avait ce bonheur partagé un peu à l'image d'une course en relais où il y avait tout le monde qui était heureux, tout le monde qui marchait dans le même sens. On fait un sport individuel et la frustration des copains joue beaucoup dans la manière dont nous, on ressent notre performance, même si c'est aucunement lié et si ce n'est pas de la jalousie. En tout cas, moi, je ne l'ai jamais ressenti comme ça.
Cette médaille d'or, c'est en poursuite de Jean-Guillaume Béatrix, fait troisième. Il y a eu donc ce moment de joie. C'est intéressant de t'entendre aussi sur des moments qui ont été peut-être un peu plus durs. Je pense à l'argent sur la mass start lors de cette même Olympiade où tu perds à la photo finish face à Svensson. Est-ce que là, j'imagine que l'argent a un goût amer?
Oui et non, oui, parce qu'on est compétiteur et que ça se joue à tellement peu, il y a 3 cm. Donc. Je viens d'en faire 15 000 sur une master, on fait 15 000 cm et ça se joue à 3. Donc, c'est sûr que c'est frustrant. Après, je suis aussi parce que je fais une erreur de technique et que je pense que si je ne fais pas cette erreur, alors en TAM, j'ai une absence de 20 secondes dans ma vie au moment où Svensson attaque et où c'est pas que je ne peux pas réagir, c'est que ça ne se passe pas dans ma tête et je suis fatigué des sollicitations des jeux. Et je suis arrivé sur cette master malade, fatigué. Donc, en fait, en soi, l'argent, c'est déjà bien plus que ce que j'espérais. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a de la frustration de la situation. Mais j'ai 2 médailles d'or sur le début des Jeux. Je n'ai pas le droit d'être déçu, en tout cas, à ce moment-là. Ce que je retiens de ces Jeux, c'est aucunement la déception de la master.
Puis en plus, il y avait l'histoire, tout le monde devait t'en parler, que tu allais dépasser Killy.
Killy, il y avait 3 médailles sur les mêmes Jeux. Ouais. Mais en tout cas, la déception, elle vient de ça beaucoup plus que de finir second. Moi, j'étais tellement heureux de mes jeux. J'avais décroché 2 titres individuels. Je vais chercher l'argent sur cette 3e course. Ouais. C'est dur de rêver mieux, en fait. Ce que je dis souvent, c'est que c'est rigolo. J'ai 7 médailles olympiques, dont 5 en or. Je pense que ça se joue en centimètres entiers, mais pour 1 centimètre, si on additionne... une balle sur le sprint ici et une balle sur le sprint à l'entrée droit, je peux en avoir 12. Mais à l'inverse, je peux repartir sans jamais être champion olympique. Et donc, c'est aussi pour ça, des fois, qu'il faut avoir l'humilité de se dire sur une médaille d'argent, j'ai déjà beaucoup de chance d'être allé chercher cette 3e médaille plus que d'avoir de la frustration.
On comprend qu'il y en a qui ont forcément un goût différent des autres. Est-ce que le premier titre olympique, c'est quelque chose qui est forcément particulier? C'est une consécration, tu disais. Tu as eu cet argent en 2010 qui t'a donné l'envie de devenir le champion que tu es devenu. Est-ce que ce premier titre en 2014, c'est celui qui t'a le plus marqué peut-être, ou le dernier qui te permet de rentrer dans une caste très serrée de sportifs français le plus titré de l'histoire des Jeux, etc. Comment tu les classerais?
La poursuite de Sochi, c'est un moment de joie pour je pense que Sandrine et Flo ont déjà connu ces émotions, mais une poursuite ou une master, c'est quand même des courses où l'adrénaline est super présente. Celui qui franchit la ligne d'arrivée a gagné, il n'y a pas d'attente. Donc, j'ai le temps de savourer sur ce dernier tour. Donc oui, c'est une course qui est extrêmement particulière pour moi. Aussi, dans mon parcours, ça fait 4 ans que je ne rêve que de ça au quotidien. Et c'est la première. Ensuite, vraiment, c'est une réponse bateau, mais elles ont toute une saveur. Cette première médaille d'argent qui me donne le goût. Cette poursuite olympique à Pyeongchang qui fait que j'arrive à être champion olympique à nouveau 4 ans après, qui a une saveur particulière. Ce relais mixte qui est un sentiment qui est assez incroyable. Et puis, ce dernier titre sur la Mastart face à Simone Schemp, où là, en fait, c'est la plus grande fierté que j'ai, c'est ce scénario qui est un peu sorti d'un film hollywoodien. Et donc là, c'est plus pour moi, c'est ça, le biathlon. C'est cette dernière Mastart à Pyeongchang où ça commence mal, je tombe, je réussis à revenir. Je suis plus favori parce que Simone Schemp est meilleur sprinter que moi. Et au final, pour une dernière ligne droite de folie, ben, ça joue en ma faveur. Et surtout avec cette historique de 4 ans avant, avec la médaille d'argent dans le même scénario. Donc, ouais, je crois qu'elles ont toutes une saveur, mais la première est pour moi particulière.
On rappelle hein, celle de cette dernière médaille gagnée à la photo finish où tu franchis la ligne d'arrivée, tu penses être deuxième. On te voit frapper la neige, à dire se rebelote, je me suis encore fait avoir. Et puis finalement, quelques secondes plus tard, il y a la consécration.
Comme il y a 4 ans, il faudra se battre jusqu'à la ligne. Il avait été coiffé par Emil Svensson sur la ligne. Simon Schemm qui tente de sortir maintenant. Martin Fourcade qui travaille, qui sort les bras maintenant, on les verra. Et qui zigzague un peu avec Simon Schemm qui tente de revenir. Simon Schemm qui fait l'effort sur la ligne, peut-être le jeté de pied. L'Allemand qui va coiffer le Français sur la ligne. Et photo finish entre les deux hommes. Attendons le résultat de la photo. Martin semble résigné. Il croit avoir été battu par Simon Schemm. Toujours pas de résultat de cette photo. C'est fait. Martin Fourcade est donné gagnant. Il devient le champion olympique le plus titré de l'histoire française des Jeux d'hiver.
Bah moi, j'étais bluffée comme à chaque fois. J'avais la chance de pouvoir commenter les Jeux et à chaque fois, j'avais 10 000 sollicitations à cause de Martin, tous les jours, partout. Il m'a beaucoup fait travailler, j'ai l'impression, Martin, toutes ces dernières années. Enfin, pas que moi, mais je veux dire, c'est vrai que le biathlon, il a pris vraiment de l'ampleur aussi grâce à lui. Et cette dernière médaille, bah, elle était magique, mais encore bluffante, parce que comme à chaque fois, en fait, tu nous bluffais encore et encore et encore différemment. Et c'est ça qui était incroyable. Du temps de Martin, quoi, de ton temps. Donc, en ça, moi, je t'ai toujours félicité. Et tu restes un modèle. Ça va être dur de rivaliser avec toute cette décennie de réussite. Quoi.
Du temps de Martin, ça met un coup de vieux, quand même.
Ouais, mais tu sais, c'est vieux.
Ça y est. Une fois qu'on a arrêté, c'est des anciens. Hein.
Et si tu veux, on a un groupe de vieilles. Tu peux venir avec nous si tu veux.
Intégrer le groupe des vieilles.
Oui, je pense qu'on aura plusieurs qui vont pouvoir l'intégrer bientôt. Je ne sais pas qui va arrêter en fin de saison, mais après les saisons olympiques, on a quand même 2-3 carrettes en général. Mais bon, j'imagine que tu voudras intégrer le groupe des garçons peut-être.
Les vieux, mais les garçons, ça fait moins vivre que vous. Je pense que les filles sont plus sensibles à ces signes, à ces gestes, et que nous, en fait, on prend du plaisir à se retrouver. À chaque fois qu'on se revoit, c'est comme si on s'était jamais quitté. Ouais. Mais on initie moins, je pense, ce genre de regroupement, et c'est chouette ce que vous faites pour ça. Il faut qu'on le fasse aussi.
Bah allez, tu peux lancer le groupe WhatsApp, hein, c'est facile.
Ouais, après, en temps de pandémie, c'est plus compliqué.
Ouais.
Oui, il y a Raphaël Poiré qui a dit qu'il fallait faire quelque chose. Je ne sais pas s'il va prendre le truc en main, mais à ton festival cet été, il a dit qu'il faut qu'on fasse comme les filles, à faire quelque chose.
Raph, qui nous écoute.
Il faut qu'on ait les modèles, Flo.
C'est beau. Si vous voulez bien, on va passer à la deuxième partie, les jeux en dehors de la performance, pour que vous nous fassiez vivre un peu les jeux de l'intérieur. Et il y a quelque chose que j'aimerais aborder, parce que quand on a fait ce même podcast avec les skieurs alpins il y a quelques semaines, avec Antoine Denaria, Flo Masnada et Franck Picard, quelque chose qui est revenu assez vite dans la conversation, là je n'ai pas voulu forcer les choses, mais je voudrais vous amener sur ce sujet, c'est les cérémonies d'ouverture. Pour eux, ça a été des moments qui ont été exceptionnels. Alors, il y en avait 2 sur 3 qui avaient vécu celle d'Albertville, qui a été dans l'imaginaire collectif français une Olympiade assez extraordinaire. J'aimerais que vous me parliez de ça. Et en plus, Martin, on a la chance d'avoir un porte-drapeau. Donc, peut-être que tu as aussi vécu ça différemment. Mais Florence, d'abord, pour commencer, toi qui as eu la chance de connaître une cérémonie d'ouverture à Nagano, comment t'avais vécu ça?
Non.
Alors, tu m'as pas écouté, hein. Tout à l'heure, j'ai dit non. Je te charrie, mais.
Ah oui, t'étais pas sur place. Oui, t'étais pas sur place. Mais tu vois, Franck Picard, lui, me disait que c'était son meilleur souvenir, mais il les a vus à la télé aussi. Il préparait sa course. Est-ce que c'est quand même un moment
Ouais, c'est pas pareil quand même, hein, quand on est dans la chambre. Ouais, on l'a regardé, mais on vit pas le truc. Et moi, je regrette vraiment de pas y être allée. Et quand je suis allée à Salt Lake, mais je me dis, mais pourquoi je suis pas allée à Nagano? Quand t'entres dans le stade, quand moi, franchement, c'est ce qui m'a mis dans l'ambiance olympique. La première fois que j'ai ressenti vraiment cette sensation de faire partie d'un événement, de représenter son pays, de cet honneur qu'on a de participer aux Jeux. Et moi, ça a été vraiment quelque chose de super fort, quoi, hein. Pourtant, je suis assez blindée quand même au niveau des émotions et tout, mais là, franchement, il y a l'épaule qui se dresse, là, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Et ça avait été une cérémonie vraiment géniale. Et puis, tout ce qui est l'attente aussi, on voit tous les autres athlètes des autres disciplines qu'on voit pas forcément. Comme je disais tout à l'heure, on est souvent un peu isolé dans nos montagnes. À Salt Lake, il y avait quand même un village nordique, un village olympique nordique. Donc ça, c'était déjà plus sympa. Mais à Nagano, on était chacun dans son coin et c'était vraiment pas drôle. Mais ouais, les cérémonies d'ouverture, c'est quand même ouais, quelque chose d'énorme. Bon, alors, je ne parle pas d'être porte-drapeau comme Martin, là, il nous dira après tout ce qu'il a vécu. Mais déjà, ça, c'était waouh, quoi. Moi, ça m'a vraiment fait du bien et apporté quelque chose de fort.
Sandrine, qu'est-ce qui t'a marqué dans des cérémonies d'ouverture?
C'est pareil, c'est Salt Lake, moi, qui me revient tout le temps, puisque j'ai moins aimé, je ne sais pas pourquoi, celle de Turin. Mais c'est la flamme qui s'allume, c'est les flashs qui crépitent dans le public, c'est ouais, ce collectif France et du coup le sentiment de devoir courir pour quelque chose de plus grand que toi, quoi. Et du coup, ça, c'était vraiment, comme dit Flo, ça. On se rend compte qu'on fait partie d'un événement et de quelque chose de fort à ce moment-là. En tout cas, moi, ça m'a fait ça. Et puis ensuite, de voir aussi à la télé, pour le coup, quand Martin était porte-drapeau, des choses comme ça, c'est aussi beaucoup de fierté de voir cette équipe de France défiler quand on est un petit peu. Après, j'ai vécu ça à la télé, du coup, à Vancouver, parce que je crois que je courais le lendemain. Mais c'était un petit peu moins fort, mais quand même beaucoup de fierté.
Martin.
Moi, j'ai deux souvenirs de cérémonie. Donc, j'ai pas fait celle de Vancouver, j'ai pas fait celle de Sochi. Souvenir de cérémonie d'ouverture, forcément, pour moi, c'est Pyeongchang et cet honneur d'être porte-drapeau, voilà, qui est vraiment quelque chose qui a changé ma perception du collectif. Jusque-là, j'étais dans une quête très individuelle. Je disais tout à l'heure, être champion olympique, c'était avant tout un projet de vie, un projet pour moi. Et je crois que le fait d'être porte-drapeau à Pyeongchang, ça m'a vraiment ouvert sur le groupe, sur la transmission, sur le partage. Voilà, c'est des notions que j'ai apprises tard dans ma carrière. Et après, moi, un souvenir très ému de la cérémonie, on n'y est pas encore, mais de la cérémonie de clôture à Vancouver. Parce que voilà, ça projette 4 ans plus loin, quand on a 21 ans. Je suis avec mon frère, c'est un moment compliqué et tous les deux, on se dit ensemble, ben voilà, on sera à Sochi dans 4 ans. Et pour moi, c'est un moment fort, cette cérémonie de clôture de Vancouver qui est festive, qui est à l'image de ces Jeux de Vancouver, pour moi réussie.
C'est vrai que les clôtures sont sympas, hein, parce que c'est la fête, on est détendu. Enfin, moi, je trouve la cérémonie de clôture, c'est dommage de ne pas la faire. Nous, on a la chance, biathlète, de pouvoir la faire parce qu'on reste toute la durée des Jeux. Donc, on peut encore rester sur la fin. Et la clôture, c'est la fête. On est, ouais, c'est vraiment.
Ouais.
Par contre, c'est triste, la flamme s'éteint. Et là, je trouve que ça fait un coup parce que bah, après, il faut se dire, c'est fini, en fait. On parle de 4 ans, on est depuis 4 ans de quelque chose qui se termine. Donc, il y a un moment de deuil, en fait, je trouve, à faire.
Ouais, pour compléter ce que dit Sanson, c'est vrai que tout le monde se lâche à la clôture et c'est vrai que voilà, ça projette aussi sur la suite. Donc, quelque chose qui s'arrête, mais avec l'espoir pour la suite et on se projette rapidement. Donc, ouais, c'était aussi des super moments, les cérémonies de clôture.
J'aimerais que tu nous parles un peu plus, Martin, de ce rôle de porte-drapeau. Quelle est la sensation quand on pénètre dans le stade avec ce drapeau? Il y a une attente, il y a une pression, il y a une fierté. Et j'imagine que tout le monde vient te féliciter, on vient te taper sur l'épaule. Comment ça se passe?
Assez particulier parce que moi j'ai un côté Florence où c'est j'aime pas marcher tout seul. J'aime bien être entouré de gens et quand on est
Marche à deux
porte-drapeau,
maintenant. Il marche
on
à
est
deux
mis à
maintenant.
la, voilà. Ben, je pense que j'aurais encore mieux vécu.
Ouais.
Et moi, je voulais la faire au milieu du groupe France, ce que j'avais pas le droit de faire. Donc il y avait déjà cette peur de dire je veux pas faire de bêtises quoi. C'est un rôle qui est assez simple,
Il
mais tu
va
te dis
tomber.
quand même. C'est le moment de ta vie où tu ne dois pas te prendre les pieds dans le drapeau, quoi. Ouais. Et non, après, voilà, la joie de lancer ces jeux et de... On matérialise en fait l'émotion dont parlait Florence tout à l'heure sur ces cérémonies d'ouverture. Mais en rentrant le premier pour notre délégation, on est celui qui matérialise ça aussi pour nos copains. Et moi, c'était, voilà, j'avais, je me souviens, j'avais Perrine Lafont qui était 2 mètres derrière moi. Et de voir son sourire, c'est ce qui m'a vraiment... Au début, je suis rentré un peu tendu, je me suis retourné, j'ai vu Perrine avec la banane jusque-là. Et ça m'a vraiment lancé. Et voilà, comme je disais, du partage, du... Un rôle de grand frère aussi, en fait. J'avais pas envie d'être porte-drapeau parce que j'avais l'impression que j'allais être beaucoup sollicité, que j'allais devoir tirer la délégation un peu cette image. Et en fait, je me suis senti poussé tout le long. Ça a vraiment été une expérience changeante dans ma vie qui a vraiment changé ma personnalité, si je peux dire, et ma façon de concevoir le sport, de concevoir... Donc, pour moi, c'est vraiment une expérience très marquante.
C'est vrai qu'il y a des athlètes qui refusent hein, d'être porte-drapeau. Parce que, comme dit Martin, ça peut perturber, on peut s'attendre à des sollicitations, on n'assume pas le fait de devoir être devant et du coup d'être attendu. Et je ne sais pas, un Alexis Peintureux, il me semble qu'il ne veut pas, lui, hein, qu'il a déjà dit qu'il ne voulait pas être porte-drapeau. Bon, là, c'est, en l'occurrence, ça ne sera pas lui, mais il y a des athlètes qui refusent.
Bon, ça se comprend quand il y a des courses le lendemain et tout. Hein. C'est vrai que. Tout le monde prendrait la même décision. Hein. C'est trop long. C'est long.
Moi, je courais le lendemain à Pyeongchang. Je courais le lendemain.
Des villages olympiques ou des lieux de course. Donc, c'est beaucoup de fatigue, il y a beaucoup d'attentes. Donc, c'est à prendre en compte. Et aussi, il faut pouvoir supporter aussi cette mission qu'on nous donne. Ce n'est pas donné à tout le monde.
Après, comme tu dis, Martin, tu courais le lendemain, mais tu as pris ça du côté positif. Comme toi, les sollicitations, ça te faisait un peu ça aussi. Tu prenais le positif de.
Ce qui est sûr, c'est que. C'est vraiment l'état d'esprit dans lequel je me suis lancé entre. Je me suis dit, si tu acceptes, il faut y aller avec le sourire. Et je crois que c'est ce qui m'a fait accepter. C'est qu'à un moment, je vivais presque plus mal le fait de refuser que d'accepter.
Ouais.
Et je me suis dit, si je refuse, bah, au début des Jeux, je vais être là en train de me dire, ah mince, tu aurais dû dire oui, ça aurait dû être toi. Tu as laissé un autre le faire de manière… Je n'avais pas envie de refiler la patate chaude à quelqu'un. En fait, je l'ai un peu fait pour ça. Et comme je disais, en fait, à partir du moment où j'ai décidé d'y aller, je me suis dit, bah, allez, tu prends le positif, tu arrêtes d'essayer de voir ceux qui pourraient être, on va dire, bah, un peu pénalisants. Et donc, moi, je l'ai super bien vécu.
Donc, pour toi, il y a eu plus de positif que de négatif à être porte-drapeau, on dirait. Hein. C'était que du positif, finalement.
Que du positif, et c'est ce que m'avaient dit mes prédécesseurs. Et c'est ce que j'ai dit à Tessa Worley quand on en a discuté. Elle m'a dit, oh, j'aimerais bien être porte-drapeau, mais je ne sais pas, j'ai envie d'en parler avec toi, t'en penses quoi? Et je lui ai dit, bah, franchement, fonce, c'est génial.
Tessa Worley et Kevin Roland qui seront les porte-drapeaux de la délégation française à Pékin dans quelques jours. C'est une nouveauté aussi, hein, tu le disais Sandrine, d'être désormais deux, un homme et une femme. Ça, c'est aussi quelque chose qui on est dans le partage là aussi, et c'est quelque chose qui est, je trouve, assez fantastique d'avoir mis ça en place. Si on rentre un peu plus dans les anecdotes, dans le village, dans les à côté des jeux, alors je sais que les jeux d'hiver, déjà vous êtes souvent un peu éloignés des uns des autres, il n'y a pas forcément un seul gros même village comme aux Jeux Olympiques d'été, mais est-ce qu'il y a quand même des moments que vous vous souvenez, une anecdote particulière que vous pouvez nous raconter, parce qu'on ne peut pas tout raconter, mais quelque chose que vous auriez envie de nous dire.
Non, mais c'est vrai qu'on est quand même vraiment à l'écart. Hein. Moi, je me rappelle vraiment Nagano, mais on n'a rien vu des Jeux. Quoi. Et, c'était la même chose à Turin. On était dans notre hôtel, mais en plus, enfin, une maison en plus que pour les Français. Donc là, on ne croisait personne, si ce n'est dans les cérémonies ou tout ça. Donc pour ça, c'est dommage, hein, côté-là, où ouais, on ne croise pas tant d'athlètes que ça. Hein, où ça on avait la chance,
nous. Parce que nous, après, à Vancouver, on était dans un village olympique. Donc là, pour le coup, c'est vrai que toi, tu n'as pas eu cette expérience, finalement, de village olympique partagé. Et ce village olympique, il peut être oppressant aussi. Hein, parce que c'est dur d'en sortir, c'est dur d'y rentrer. On n'est pas libre autant que ça. Mais moi, ce que je me souviens, c'est qu'à chaque fois, on essaye tout le temps de reconnaître des athlètes. Et finalement, quand on les voit physiquement, on dit « Ah ouais, d'accord ». En fait, il est petit, en fait, il est grand, en fait, c'est plutôt comme ça. C'est que c'est chouette aussi de pouvoir rencontrer les athlètes qu'on voit à la télé, d'autres disciplines, même si nous, on avait la chance au sein de l'équipe de France de pouvoir partager du temps avec nos collègues de l'armée à l'époque, ou nos collègues douaniers, enfin eux partageaient du temps ensemble, donc on rencontrait quand même les autres disciplines. Mais c'est que sur des Jeux olympiques comme ça qu'on peut rencontrer les alpins ou les skieurs de fond. Enfin voilà, donc on n'a pas non plus trop d'autres choix que de rencontrer ce petit monde. Et donc on rencontre d'autres stars et donc on est tout petit face aux autres athlètes qu'on rencontre. Et ça, c'est un beau moment dans le village olympique.
Je me rappelle d'un moment où j'étais au contrôle antidopage avec Marit Bürgen, où quand même, c'était quand elle commençait à monter, elle n'avait encore pas tous les résultats, elle en a fait encore beaucoup après, mais quand même, j'étais un peu petite à côté d'elle, et il y a des petits moments comme ça sympas, même si à force, on a l'habitude de rencontrer des grands noms de d'autres disciplines, mais ça ne fait rien quand même, ça, quand ouais. On ne les a jamais rencontrés, ça fait voilà, un petit coup quand même, des petits moments sympas.
Ouais. Et toi Martin, tu as été impressionné ouais.
Non, mais c'est rigolo parce que Flo, elle a fait 3 JO et 3 fois à l'écart. Ouais. Et moi, j'ai fait 3 JO et 3 fois en village olympique.
C'est pas la même chose. Hein. C'est vrai que ouais. Ça change complètement d'état d'esprit.
Et,
ouais.
Et moi, j'ai une petite anecdote du coup rigolote. On est à Vancouver et on rentre dans le village olympique. Et là, je me retourne et je reconnais Hicham El-Guerrouj. Quoi, je crois reconnaître Hicham El-Guerrouj et double champion olympique en athlétisme sur 1500 et sur 5000 et qui pour moi était vraiment quelqu'un que j'ai beaucoup suivi. Et donc je vais m'asseoir à table et je dis vous avez vu, je crois qu'il y a Hicham El-Guerrouj là-bas. Et puis Vincent Defrane qui me dit non c'est sûr c'est pas lui, et donc du coup on se met à parier et Vincent le trouvait beaucoup trop gros pour que ce soit Hicham El-Guerrouj. Je balance et du coup j'ai gagné mon pari, c'est plus ce que c'était. Et voilà, la chance d'avoir pu rencontrer Hicham El-Guerrouj et la chance aussi d'avoir gagné ce pari face à Vincent Defrane. Et ça, je crois que ça valait plus qu'un titre olympique pour moi.
J'imagine qu'on venait aussi de solliciter Martin, non, dans le village olympique, les jeunes athlètes français et étrangers qui venaient faire des photos peut-être.
Alors pareil, il y a pas mal de sollicitations. Et une petite anecdote rigolote à ce sujet-là. On est à Sochi, je suis double champion olympique en titre, je viens de faire médaille d'argent, je suis extrêmement sollicité en Russie, dans un pays où le biathlon est star, et il y a deux petites jeunes du Kazakhstan, je crois, qui viennent me voir et qui me tendent l'appareil photo, quoi, qui me montrent l'appareil photo, et qui disent « oui, venez faire une photo ». Et là, elle me dit « non, mais on veut que tu nous prennes en photo à nous ». Comme disait Sandrine tout à l'heure, ça remet les pieds sur terre.
Ouais.
C'est génial ça. Est-ce que vous avez le temps pendant vos jeux d'aller voir d'autres disciplines ou c'est difficile?
Non, on a le temps. Enfin, non, pas tout le temps, pardon. Mais en tout cas, moi, j'ai eu le temps à Vancouver justement. Et il faut y aller. Il faut vivre les jeux, comme disait Martin. Et se dire, et comme disait Flo, ne pas rater ces moments, justement, on a la chance de pouvoir aller s'ouvrir un peu l'esprit en allant voir d'autres disciplines, et c'est le moment de le faire si on peut, si la course est finie, si ça ne nous pénalise pas trop, mais je pense que quoi qu'il arrive, il faut essayer de vraiment vivre ces jeux de l'intérieur et d'en profiter. Donc moi, j'étais allée voir le slalom, et j'avais trouvé ça génial. Et du hockey, je crois aussi. Enfin bref, non, mais c'était... On peut pas tout le temps parce qu'on a beaucoup de courses en biathlon, mais quand on peut le faire, faut le faire.
Oui, c'est quand on peut y aller, c'est quand on a fini vraiment les compètes et en plus on est quand même plus libre dans la tête aussi pour apprécier ces moments-là, parce que quand on a encore les courses, c'est compliqué entre les entraînements, les récup et tout. Et c'est vrai que moi, on a eu la chance après Nagano et Salt Lake aussi. Moi, j'ai pu aller voir d'autres épreuves. Et ça aussi, c'était génial. J'avais jamais vu une Coupe du Monde d'Alpin, donc j'ai vraiment apprécié. Et puis, on avait pu aller au village olympique quand même quelques jours, justement, mais en fin de jeu. Donc, c'était mieux que rien, mais c'était déjà ça. Donc, quand on peut, c'est vrai qu'on me dit Sansan, hein, de pouvoir s'ouvrir à d'autres sports, se mélanger, discuter avec d'autres athlètes. Ça fait partie de ces Jeux olympiques et des côtés sympas.
On passe à la troisième partie à présent sur l'après-jeu. Comment est-ce qu'on les appréhende? Est-ce qu'il y a du soulagement d'avoir fini, de la tristesse? Comment l'avez-vous vécu chacun?
Vas-y, Martin, comme tu as parlé tout à l'heure.
Je pense que je vais avoir une réponse qui va correspondre un petit peu aux trois. Parce qu'en biathlon, on fait quand même un sport où la saison n'est pas terminée après les Jeux. Et où du coup, il y a la Coupe du Monde qui continue. Et donc pour moi, l'après-jeu, c'est ça. ça, on revient vite sur des objectifs sportifs, sur du concret. Et donc, il y a une semaine de pause à la maison où on sait qu'on n'a pas trop le temps d'en profiter parce que de toute façon, on doit repartir. Et ensuite, on rebascule de suite sur des objectifs sportifs. Donc, pour moi, l'après-jeu, c'est plus, comme le disait Sandrine, la nostalgie de voir s'éteindre la flamme sur le moment. Mais il n'y a pas de baby blues post-olympique pour moi.
Moi, c'est soulagement. C'est un peu le mot parce que j'avais quand même du mal, je trouve, à appréhender cet événement. Et j'ai jamais vraiment su jouer pendant les Jeux, enfin de manière individuelle. Après, collectivement, oui, j'y arrivais, heureusement. Mais donc, c'était plutôt du soulagement et contente de retrouver vite la Coupe du Monde pour un petit peu effacer ces Jeux. Et en général, j'avais assez vite des résultats derrière. Donc, c'était reparti et je me disais, ben merde, alors, c'était avant qu'il fallait avoir ces résultats. Mais bon, c'est comme ça, c'est, chacun le vit différemment.
Alors, moi, de mon côté, c'est vrai qu'après, on repart vite dans les objectifs pour la fin de saison. Mais c'est vrai qu'à très, très court terme, dès qu'on rentre à la maison où on était invité à des réceptions où tout le monde nous attendait, moi, j'étais sur le cul quand même. Je ne m'attendais pas à ce que tout le monde… C'était, alors, Martin, et maintenant, ça a bien changé. Hein, c'est beaucoup plus médiatisé. Mais en rentrant de Turin, où, voilà, ça commençait à être un peu plus visible. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait eu autant de monde qui ait regardé, qui ait suivi et qu'on ait donné autant de joie à des gens, donc ça m'avait impressionné quand même, mais après vite reparti dans les objectifs de fin de saison.
Pour terminer, une image que vous garderiez de vos Jeux?
Moi, c'est retrouver mon frère, la ligne d'arrivée après la Mastart, au moment de la Mastart. Voilà, c'est cette image pour moi qui est beaucoup plus qu'une image, c'est une image humaine. Donc je pense que c'est ça, et c'est avant qu'en fait tout s'emballe, parce que c'est le dernier moment où je suis en contact avec le monde réel avant de basculer dans un truc qui me dépasse un petit peu.
Tu parlais de Vancouver.
Ah, Vancouver, ouais. J'ai dit Sochi ?
Non, tu n'as rien dit, non. Mais c'est qu'on peut préciser pour savoir que c'était le début de l'épopée Martin Fourcade.
Master de Vancouver, 20 secondes après avoir franchi la ligne d'arrivée.
Moi, ça restera la flamme qui s'allume dans le stade, parce que je pense que c'est le moment vraiment où je prends conscience de l'émotion que ça a et j'avais pas vraiment appréhendé ça aussi fort en fait.
Et toi, Florence?
Alors, c'est pas des images, c'est des sensations. Alors moi, je dirais, donc il y a cette entrée dans le stade là à Salt Lake, et puis sur le podium quand j'ai la médaille et qu'il y a la Marseillaise, hein, c'est bateau, mais il y a plein de choses qui me sont revenues en mémoire de mon parcours, quoi. Et pour moi, c'était tout le parcours qui est revenu et l'aboutissement de plein de choses et du gros changement chez moi. Et c'est quelque chose de fort aussi.
Merci en tout cas d'avoir participé à ce podcast Olympic Legend. C'est un plaisir. On aurait pu échanger encore, je pense, pendant une heure ou deux sur ces souvenirs olympiques. Merci à tous les trois. Dans quelques jours, il y a les JO de Pékin qui commencent. J'espère qu'on va aussi vivre de belles émotions, que ce soit en biathlon, mais aussi sur d'autres disciplines olympiques. Et si vous voulez écouter d'autres podcasts pendant les JO, ce sera l'heure olympique tous les jours du 5 au 20 février sur eurosport.fr et sur toutes les bonnes plateformes d'écoute. Pour le débrief de la journée avec les consultants, les médaillés, les journalistes de la rédaction. À très vite sur Eurosport. Salut.
À bientôt.
Merci à toi. Bye bye.